libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, nous sommes avec Luc Ferré, nous sommes avec David Abiquière. On regarde Abiquière, le drame d'Annecy, évidemment, notre langue a fourché tout à l'heure à David et moi, et non pas celui de Nancy. Pardonnez-nous. Luc, qu'est-ce que c'est, puisque vous êtes philosophe, qu'un héros? Je parle d'Henri et Djokovic. Attends, du point de vue de la philosophie. Michel Serre a posé la question à Laurent Fabius à l'oral de Normal.
Djokovic, c'est pas du tout un héros, c'est un immense sportif, c'est un type génial dans son domaine, à proprement parler génial. Pas le génie, c'est celui qui invente des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Mais c'est pas du tout un héros. Non, le héros, alors, il y a plusieurs conceptions du héros, je veux pas vous faire une histoire du héros, mais...
Henri, dans l'actualité.
Deux choses, non, parce que Henri, c'est un héros catholique. D'accord, c'est ce, il se revendique comme tel, et donc il fait ça par rapport à quelque chose, par rapport à une transcendance. C'est quelqu'un qui est capable de risquer sa vie, de faire des choses que nous admirons tous, mais par rapport à une transcendance qui, en l'occurrence, est celle du divin. Là-dessus, Redeker, il en fait peut-être un peu trop, mais il a tout à fait raison sur le fond.
C'est un héros catholique, donc médiéval.
Voilà. Mais chez les Grecs, c'est autre chose, puisque on n'est pas dans une optique chrétienne, évidemment, dans le monde grec, et l'héroïsme grec, puisque c'est ce que met en scène la tragédie grecque, c'est extrêmement intéressant chez les Grecs, c'est une compétition avec la nature. C'est très intéressant parce que les Grecs ont l'idée que la nature est cyclique. Le jour, ça suit la nuit, l'été, ça suit le printemps, etc. Et donc, les cycles font qu'on ne peut pas oublier la nature. Elle se rappelle à notre bon souvenir en permanence. Alors que les humains mortels, ils sont, si je puis dire, volatiles. Tout passe. On est dans l'éphémère. Nous, on est dans l'empire
de l'éphémère. Henri, il a parlé.
Sinon, ça n'a aucun sens. Et donc, le héros, c'est celui qui est en compétition avec la nature pour gagner l'éternité, pour qu'on parle de lui et qu'il devienne l'objet d'un livre d'histoire ou d'un livre d'une épopée. Et donc, il accomplit des actes héroïques pour être aussi éternel, pour qu'on ne l'oublie pas, pour être aussi éternel que l'est la nature. Voyez.
Vous avez
deux types d'héroïsme, un héroïsme grec et puis un héroïsme chrétien, celui auquel on vient d'assister, mais qui, dans tous les cas de figure, ce sont des gens qui accomplissent des choses admirables, qui risquent leur vie, mais par rapport à une transcendance. Et c'est évidemment ce qui nous fait défaut majoritairement.
Il y a tous ceux qui ont filmé, parce qu'en fait, c'est épouvantable, le personnage qui a poignardé des enfants. Il a été confronté à ce jeune garçon, Henri, mais en même temps, il y avait des tas de gens autour qui filmaient avec des iPhones ou des smartphones, etc.
Parce qu'ils sont, comme le commun des mortels, ils ont peur, évidemment, de quelqu'un qui est en pleine forme, manifestement, sur le plan physique, un couteau à la main, qui se balade comme un fou furieux, en dansant et en poussant des cris. Bon, et donc, la peur, si on n'a pas une transcendance grandiose qui nous pousse à faire quelque chose...
Oui, il a parlé d'ailleurs, Henri, de pulsion, ce jeune homme.
Bien sûr, mais parce que c'est un
chrétien. Il n'a pas réfléchi.
Oui, mais parce qu'il n'a pas besoin de réfléchir, parce qu'il a cette transcendance en lui, il a cette transcendance du divin qui lui commande, en quelque sorte, d'être au niveau de sa foi, de sa conviction religieuse. Mais il faut une transcendance pour être... Alors, nous, on peut avoir une transcendance qui n'est ni celle des Grecs, ni celle des chrétiens, qui est simplement celle de l'humanité. C'est-à-dire que quand on voit un bébé de 22 mois poignardé dans un landau, dans un berceau, c'est aussi pour nous une forme de profanation à quoi on assiste.
Alors, je vous ai vu discuter hier avec
Daniel Cohn-Bendit
sur LCI, à propos justement de la politique migratoire.
Vous me suiviez sur LCI, je pense que ça
non,
vous
non,
fait
mais
du
moi,
bien.
Je, vous savez... Je... Moi, je vous suis à la trace. Et ça fait des années que ça dure.
J'aime bien parce que c'est en direct.
Vous avez une partie de la gauche qui considère que les lois en matière migratoire sont des lois qui sont suffisantes. Ça, c'est la gauche version LFI.
Oui.
Il y a une réflexion. Madame la Première Ministre, Elisabeth Borne, a dit qu'il n'était pas question de 49-3 quand on examinerait cette loi sur l'immigration. Vous, alors là, concrètement, puisque nous avons fait de la philosophie, concrètement, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, changer à partir... Parce que si on se met à réfléchir à partir de tous les faits divers atroces qu'on voit, on va perdre le Nord.
Non, moi je vous dis tout bêtement le modèle danois. Et d'ailleurs, ce modèle danois, il est très intéressant parce qu'il est mis en place, tout le monde l'a compris maintenant, par des sociodémocrates, pas par des fascistes. Et en même temps, il ne sort pas, contrairement à ce que veulent les LR, des cadres de l'Union européenne. Ça prouve qu'on peut faire quelque chose d'extrêmement ferme, d'extrêmement sérieux, et donc sans sortir des cadres de l'Union européenne. Et donc ce modèle danois, il est très intéressant.
Donc des quotas, beaucoup plus dur sur le droit d'asile.
Une application des OQTF, alors là ce serait les OQTD si je puis dire, puisque c'est les obligations de quitter le territoire français, bon, et puis non-détournement du droit d'asile.
Mais voilà. Vous avez vu cet homme, ça fait des semaines qu'il traîne à Nancy, il vit dans un appartement, enfin il vit dans un hall d'immeuble, quelqu'un l'a repéré dans ce parc, ça faisait des mois qu'il traînait sur des bancs, et personne n'a rien bougé. Enfin.
Et ben parce que ça n'a rien à voir avec le problème de l'immigration. C'est ça qui est le paradoxe, ça n'a aucun rapport. La droite s'empare de ça, mais ça n'a aucun rapport avec le problème de l'immigration. l'immigration. Ce type est évidemment un barjot complet, extrêmement dangereux, mais il est dans la légalité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a obtenu le droit d'asile en Suède. Je pense que tout le monde l'a compris. Ouais. La seule réforme qu'il y aurait à faire supplémentaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est d'avoir un fichier européen complet du droit d'asile. Que ce type ne puisse pas faire une demande en Italie, en Espagne et en France comme il l'a fait, parce qu'il l'avait fait en Suède et qu'on ait un fichier général. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé là, paradoxalement, n'a aucun rapport avec le problème migratoire, parce qu'il était dans la légalité. Il avait le droit d'asile. Alors après, on peut dire qu'il y a détournement du droit d'asile, c'est possible, mais c'est un autre problème. Et donc, il faut donc qu'il y ait c'est ce que dit Chevènement, entièrement d'accord avec lui, non-détournement du droit d'asile et application des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. 90% ne sont pas appliquées. C'est délirant. Bon, voilà. Donc, on peut faire des choses dans le cadre européen. On peut améliorer, d'ailleurs, les lois européennes en ayant un fichier global du droit d'asile. Mais évidemment que vous voyez, ce qui est très intéressant.
Puisque j'ai cité votre chaîne, je vais en citer une autre, BFM TV ce matin, Cyril Breton, qui est notre invité il y a deux jours, disait, il faut absolument qu'il y ait au niveau européen une seule politique migratoire.
Bref, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire un fichier global du droit d'asile qui soit un fichier global européen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a une réforme à faire. Il y a des réformes à faire au sein de l'Europe, mais ça ne veut pas dire... On ne peut pas quitter l'Europe à moitié, ça n'a pas de sens. Donc il faut réformer ce droit européen, ou alors on quitte l'Europe entièrement comme les Anglais. Et ce qui est très très frappant dans cette histoire, c'est que l'immigration en Angleterre depuis le Brexit a pratiquement triplé. Ils vont arriver à 700 000 migrants l'année prochaine, ils étaient à 300 000 quand ils étaient dans l'Union européenne. Et en revanche, donc, ce qui est très intéressant, c'est que le Danemark peut faire une loi qui ferait rêver le Front National, mais sans quitter l'Union européenne. Donc il faut que les LR réfléchissent 3 secondes avant de dire des bêtises.
Vous l'entendez pas toute la journée. Hein.
Parce qu'ils sont... Mais c'est pas le problème. Guillaume, arrêtez de dire des bêtises. Le problème, c'est la vérité. C'est pas une question de taper ou pas taper. La question, c'est vrai ou pas. Le problème n'est pas de savoir si je tape ou pas. La question est de savoir si c'est vrai ou pas. Et donc, est-ce qu'on peut quitter l'Union européenne à moitié ou pas ?
Je suis d'accord avec vous.
Eh ben alors dites-le au lieu de dire que je tape sur les LR.
Non, pas du tout.
Parce que le problème n'est pas de savoir si je tape ou je tape pas. Bon. Le problème, c'est de savoir si c'est vrai ou pas.
Luc, simplement, je voulais dire une chose. C'est que comme je vous suis, je vous entends dire, c'est la solution la plus intelligente. Je vous ai entendu hier, je vais vous faire sortir la bande. C'est la solution la plus intelligente, la cohabitation avec des gens comme Xavier Bertrand. Visiblement, c'est votre héros.
Mais c'est pas grave.
Mais donc, comme c'est la plus intelligente, elle n'aura jamais lieu.
C'est ce que je pense, hélas. Si le problème d'Emmanuel Macron, c'est de trouver une majorité à l'Assemblée nationale, on est d'accord avec ça, si c'est l'équation réseau. Il l'a même demandé à Elisabeth Borne. Je l'invente pas. D'accord ?
Ok.
Bon, s'il veut trouver une majorité à l'Assemblée nationale, c'est avec la droite qu'il peut la trouver, c'est pas avec la NUPES, c'est pas avec le Front National.
Mais quelle est la différence entre le « en même temps » et la cohabitation ? L'accord ?
Mais l'accord préalable, il s'agit pas d'aller rafler des postes de manière bestiale. Il s'agit, comme en Allemagne, quand on est dans une situation à l'allemande, d'une certaine manière, obligatoirement à cause de ce manque de majorité à l'Assemblée nationale. Et par conséquent, il faut construire un programme, Guillaume.
Oui, voilà. J'ai compris.
Qui peut le faire? Ça peut être avec Barouin, ça peut être avec Lisnard, ça peut être avec Xavier Bertrand, ça peut être avec quelqu'un qui est compatible avec la CFDT et qui peut parler avec la gauche raisonnable. Voilà, en gros. Et donc, c'est simplement, si Macron veut résoudre l'équation qui consiste à élargir sa majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas avec Marine Le Pen et c'est pas avec Mélenchon qui va le faire.
Alors, j'ai gardé.
Je suis désolé, mais c'est tellement rationnel que c'est.
Oui, mais.
J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens comprennent pas.
Non, mais. Vous êtes lumineux, Saint-Luc. J'ai gardé Abiquier, non pas pour qu'il soit ministre du temps libre, comme l'avait été Édouard Henry, ça m'avait fait énormément rire. Ça avait été assez comique à l'époque. Donc, David, vous vous rapprochez de votre micro. Parce que dans 30 secondes, vous allez poser une question, juste après cette dernière interpellation à l'égard de Saint-Luc. Le ministre de l'Éducation.
Oui.
Il se moque de nous.
Oui.
Il a complètement raté son histoire avec les parents de la pauvre
pendu. Oui, ça a été horrible.
En tombant sur les réseaux sociaux, ça, il avait raison, mais en disant qu'il pouvait rien faire. Et maintenant, il dit, faisons une heure d'instruction civique.
Oui, ça n'a pas de sens.
Alors que cet enfant s'est pendu.
C'est choquant. C'est vraiment de la com' bête, parce que il faut revoir entièrement les programmes d'éducation civique à l'âge, à la fois de ChatGPT et des réseaux sociaux. Donc, il y a un très grand travail à faire pour actualiser ces programmes, mais c'est pas avec une heure dans l'année qu'on va changer quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens.
Voilà. Sauf à expliquer aux gens qui sont harcelés, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est une pression
pratique. Ça peut pas faire de mal. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas ça qui va stopper le harcèlement ou qui va stopper cette espèce de vague épouvantable qu'on reçoit sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un pépin. Et donc, aujourd'hui.
Même après la mort, c'est ça qui est. On est dans l'immonde de l'immonde.
Voilà, le problème est là. Et donc, je vois là, à la télévision, Thierry Breton de l'autre côté. Il y a aujourd'hui, il va y avoir l'IA Act, donc la régulation éthique et politique, d'ailleurs pas simplement éthique, de l'intelligence artificielle. C'est le grand sujet. Moi, ce que je vous dis depuis des années, pardon de radoter, tant qu'on ne lèvera pas l'anonymat sur les réseaux sociaux, on fera
rien. Il a dit il y a deux jours, Thierry Breton, à votre place, que justement, ça ferait partie du sujet.
Mais c'est pour ça. Mais Thierry Breton, vous savez, il a été le patron d'Atos, donc il connaît. D'abord, il est polytechnicien, donc c'est un des rares types qui a une connaissance scientifique suffisante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les LLM, avec les modèles de langage large, comme on les appelle en anglais. Et donc, c'est bien que ce soit lui qui s'en occupe, parce que il est assez compétent et assez intelligent pour savoir de quoi il se passe.
Et il a d'ailleurs dit qu'il allait rencontrer aux États-Unis, en Californie, tous les patrons à commencer.
Bien sûr.
Avec Elon Musk, Altman, le premier, pour voir de quoi il s'agit.
Et Sam Altman, qui est le...
J'ai gardé Abiker, il faut quand même...
Non, mais Abiker est remarquable, il faut toujours le garder.
Voilà. je suis resté pour écouter, hein, pas pour poser de questions. Mais c'est... puisqu'on a un ancien ministre de l'Éducation nationale sous la main, il y a un problème dans la société, on rajoute une heure de cours.
Oui, ça n'a pas de sens.
C'est, c'est toujours comme ça.
Surtout donc, que c'est une heure sur l'année.
Alors, il y a un problème de...
On ne parle même pas des taxes, on augmente les fonctionnaires, on envisage
non, il y a un problème de pollution.
Les business pour financer le train, et en plus...
Parler à Biquet.
Ma question à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, c'est les parents d'élèves d'aujourd'hui, ou les ex-parents d'élèves d'aujourd'hui, comme je l'ai été, ont le sentiment que les programmes changent tout le temps. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y a eu une instabilité programmatique dans l'éducation nationale de tout temps, si j'ose dire, ou en tout cas depuis Jules Ferry, ou est-ce que ça s'est accéléré ces dernières années?
C'est-à-dire qu'il y a... Oui, ça s'est accéléré parce qu'il y a une accélération objective. On parlait à l'instant de l'intelligence artificielle. Ce sont des éléments de programme qui n'existaient pas il y a 10 ans. ChatGPT n'existait pas il y a 3 ans.
Est-ce que c'est une raison pour accélérer?
Pas accélérer, mais changer. Et donc... il y a eu deux ministres qui sont revenus en arrière, si je puis dire, Jean-Pierre Chevènement et moi. C'est-à-dire qu'on est revenus en arrière, on a remis tous les deux de la chronologie en histoire. Je pense que l'histoire, il faut de la chronologie. Mmh. Et des œuvres dans les programmes de littérature, dans ce qu'on appelle les programmes de français. Mais moi, je tiens à dire que ce sont aussi les programmes de littérature. Et donc, on a été des ministres qui étaient, plutôt réactionnaires au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on revenait, au bon sens, à la chronologie en histoire, aux œuvres littéraires en littérature. Mais il est évident que dans d'autres domaines comme la biologie, par exemple, et la physique, mais surtout la biologie, il y a de telles évolutions aujourd'hui qu'on est quand même obligé de changer les programmes. Le problème, c'est qu'il y a eu une réforme des programmes avec Najat Vallaud-Belkacem, que nous avons été trois à critiquer, trois ministres, Bayrou, Chevènement et moi. On a fait une pétition contre ces programmes parce qu'ils sont hyper modernistes et du coup, les parents comme vous et moi ne comprennent plus ce qu'on enseigne à leurs enfants parce qu'ils ont le sentiment que c'est un autre monde. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut évoluer là où c'est absolument nécessaire. Par exemple, sur l'intelligence artificielle ou en biologie, il y a vraiment des évolutions. Mais ça veut pas dire être moderniste. Ça veut simplement dire tenir compte des évolutions, mais de manière, si je puis dire, homéopathique.
Mais sur les méthodes de travail, quelque chose s'est perdu. Je vais jouer les vieux cons, mais je vois que Guillaume a un livre dans la main. J'ai connu une
éducation. Il m'a recommandé Luc, et il y a une question ahurissante.
J'ai connu une éducation nationale où les profs
et lui aussi.
Vous le savez, vous avez dit, vous avez le livre, vous lisez page 30 à 57, vous faites l'exercice A3. Ouais. Moi, mes filles sont rentrées de l'école, c'était fini, il n'y avait plus ça. Et donc, il y avait une rupture générationnelle entre l'éducation que j'avais pu recevoir sur la méthode et les méthodes éducatives que recevaient mes filles. Et je comprenais plus et j'étais perdu. Qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce qui est tombé dans le trou?
Je dis un truc parce qu'après, Luc va dire, conclure parce qu'on est arrivé au terme. Luc, c'est une grande université, bref.
Non, j'étais prof à partout, j'étais prof au lycée aussi, j'étais prof en école normale.
Je veux te dire un truc, et je le dis évidemment à nos amis, les auditeurs de Radio Classique, que nous aimons beaucoup. quand on est dans le secondaire, une énorme partie des profs qui adorent leur métier, justement, l'histoire, par exemple, de la chronologie. Moi, j'étais prof d'histoire. Oui. Ce que sortaient les programmes, il faut bien le dire, on s'en foutait totalement.
Mais évidemment.
On faisait exactement ce qu'on croyait bon pour les élèves et on s'asseyait sur les programmes.
C'est ce que j'allais répondre à David. C'est que la vérité, c'est que le prof dans sa classe, il est comme Louis XIV en France. Il a rien à foutre de ce que dit le ministre ou de ce que sont les programmes.
Mais dans le bon sens. Exactement. Terme, parce qu'il y a ceux qui le font dans le mauvais sens. Mais là, c'est dans le bon sens.
Oui,
du
mais
terme.
Ça peut être dans le très mauvais sens. Par exemple, on peut mettre des programmes d'histoire extrêmement chronologiques, ce que j'avais fait, comme Jean-Pierre Chevènement. Mais le prof dans sa classe peut faire absolument ce qu'il veut. Il peut faire un programme d'histoire complètement thématique. Alors après, comme on est inspecté une fois tous les 3 ans ou tous les 6 ans, et que de toute façon l'inspection on s'en tape comme de l'an 40, c'est le prof, il fait absolument ce qu'il veut.
Vulgaire,
donc on ne peut pas. Non, on se tape comme de l'an 40, c'est pas vulgaire. Mais le prof, il fait absolument ce qu'il veut, ce qui fait qu'on ne peut pas juger vraiment de la qualité du ministre ou des instructions ministérielles en regardant simplement ce qui se passe dans la classe de ses enfants. Ce sont deux choses qui sont très différentes. Mais néanmoins, sur le long terme, si on refait par exemple des programmes chronologiques et qu'on y tient, on finit quand même par emporter l'adhésion d'un certain nombre de professeurs.
Cher Luc, frère Luc.
Oui, mon ami.
On se retrouve la semaine prochaine.
Et alors, je voulais parler de ce livre.
Ah non, mais oh, il y a d'autres programmes sur Radio Classique. Hein. Il y a Franck Ferrand dans un instant, il s'appelle Alexandre Geffen. On a parlé la semaine dernière de ChatGPT.
Oui.
Et je vous promets que je vais le lire et que nous en parlerons.
Voilà, gardez-le, on en parle la semaine prochaine. Voilà. Alors. Ok, promis.
Ok, promis, juré.
58. Merci, mon ami.